France Culture.
Le journal est présenté par Mathieu Laurent. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Quentin et bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, la marche des fiertés de Budapest interdite par la police et ainsi instrumentalisée par les nationalistes hongrois. Le maire de la capitale, Gergely Corazioni, entre en résistance. La guerre entre Israël et l'Iran, nouveaux affrontements aujourd'hui. Les États-Unis ne cessent d'augmenter leurs effectifs dans la région, tandis que la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne tentent d'irriguer les canaux diplomatiques. Correspondance de Washington et explication d'Isabelle Labéry. Dans l'actualité française, l'examen de la personnalité du principal accusé au procès de l'attentat en 2019 contre la prison de Condé-sur-Sarthe, Michael Kiolo brandit son appartenance au groupe État islamique. Enfin, le dossier de cette édition se penche sur la quête de légitimité culturelle du clubbing. Dossier signé Eric Chavroux. C'est un front que les démocrates et progressistes ont en partage en terre illibérale. Ce qui suit se déroule en Hongrie. La police vient d'appliquer une loi votée par le Parlement aux mains du Fidesz, le parti du président Viktor Orban, et annoncer l'interdiction de la marche des fiertés prévue samedi 28 juin à Budapest au nom, je cite, de la protection des enfants. Le maire de la capitale se dresse contre cette interdiction, Nathanaël Charbonnier.
Il est évident que chaque camp va tenter de s'imposer avec ses arguments devant la justice, car il faut savoir qu'un recours reste possible pour contester la décision d'interdire le défilé, et cela devant la Cour suprême du pays. La police, en tout cas, va continuer de s'appuyer sur la loi de 2021 qui vise à bannir tout rassemblement qui aurait pour conséquence d'évoquer auprès des mineurs des thèmes comme l'homosexualité ou encore le changement de sexe. Le maire de Budapest va de son côté continuer de dire que cette décision d'interdire n'a aucune valeur puisqu'il s'agit d'une manifestation municipale. Et pour montrer sa détermination, il ajoute d'ailleurs sur son compte Facebook que la municipalité organisera la Pride, point final. Le rendez-vous sera en tout cas à suivre car de nombreux opposants au gouvernement nationaliste de Viktor Orban et personnalités politiques de gauche sont d'ores et déjà annoncés. On parle aussi de la présence de ministres qui feront le déplacement d'autres pays européens ainsi que celle de la commissaire européenne chargée de l'égalité.
La guerre entre Israël et l'Iran avec chaque jour des affrontements. Ce matin, l'armée israélienne a dit avoir mené plusieurs frappes, en particulier sur la capitale, Téhéran. L'Iran a tiré ce matin une nouvelle salve de missiles sur l'État hébreu et de violentes explosions ont été entendues à Jérusalem et Tel Aviv, des dizaines de blessés lors de l'attaque de l'hôpital Soroka de Beersheva dans le sud. Des sirènes d'alerte antiaérienne ont à nouveau retenti cet après-midi dans le nord, cette fois d'Israël. Cette guerre, suspendue à l'indécision affichée du président américain, qui invite à la plus grande prudence quant à ce qui peut se passer dans un futur proche, moyennant quoi il y a des mouvements de troupes, tout un dispositif que les États-Unis consolident. Nous sommes en ligne de Washington avec notre correspondant permanent. Bonsoir Sébastien Paour.
Bonsoir à tous.
Plusieurs médias américains, Sébastien, dont le Wall Street Journal, font état de bruits de bottes potentiellement imminents, même si Donald Trump dément.
Oui, il écrit sur son réseau social que le quotidien n'a aucune idée de ce que sont ses plans, parce que le journal affirme qu'il a approuvé des plans d'attaque contre l'Iran, avec pour cible principale le Fordo au sud de Téhéran. Il aurait notamment demandé des garanties à ses conseillers militaires sur la bombe de 13 tonnes que les Américains sont les seuls à avoir. Il veut être sûr qu'elle est capable de détruire le site d'enrichissement d'uranium construit à plusieurs dizaines de mètres sous terre. Plusieurs hauts responsables américains affirment aussi à l'agence Bloomberg qu'il se prépare à l'éventualité d'une frappe dans les prochains jours, peut-être ce week-end. Ce qui est sûr, c'est que le président américain tenait hier une nouvelle réunion dans la salle de crise de la Maison-Blanche, la deuxième en deux jours, et que l'armée américaine renforce ses effectifs au Moyen-Orient. Un troisième destroyer est entré hier dans la partie orientale de la Méditerranée et un deuxième porte-avions se dirige vers la mer d'Oman. Un renforcement purement défensif, d'après le Pentagone, qui permet aux États-Unis d'être mieux positionnés si Trump décide de frapper l'Iran aux côtés d'Israël et qui permettent aussi à Trump de faire pression sur Téhéran pour obtenir des concessions.
Sébastien, quelles seraient les cibles américaines potentielles dans la région pour l'Iran en cas d'entrée en guerre des États-Unis ?
Alors, le Pentagone ne donne évidemment aucun chiffre officiel, mais 40 à 50 000 soldats et civils américains seraient dans la ligne de mire de l'Iran et en premier lieu ceux stationnés en Irak, à Bahreïn et au Koweït. Le personnel non essentiel et les familles des diplomates dans ces trois pays ont d'ailleurs déjà quitté les ambassades. Dans le détail, il y a 2 500 militaires américains en Irak, à Bagdad, dans une base dans le désert et au nord, dans la région kurde. Environ 9000 autres sont à Manama, à Bahreïn, où se trouve le quartier général de la 5e flotte de la marine américaine. Et il y a environ 13500 GIs au Koweït, répartis sur 5 bases. Il faut ajouter à ça la base aérienne d'Al Udeid au Qatar, 10 000 personnes, le plus grand site militaire américain au Moyen-Orient, et le QG régional du commandement central américain. Et puis les 3500 militaires qui sont sur la base aérienne d'Al Dafra, près d'Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis.
Sébastien Paour en direct de Washington. Jusqu'à nouvel ordre, la diplomatie échoue à réunir les circonstances qui pourraient conduire les belligérants à un cessez-le-feu. La Russie et la Chine exhortent à un règlement politique du conflit sans trop de prise. Dans le même temps, la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne sont à la manœuvre. Ces trois pays étaient déjà en première ligne lors de la négociation de l'accord de 2015, Isabelle Labéry.
Quand les États-Unis de Donald Trump ont torpillé l'accord en 2018, Paris, Berlin et Londres ont tout fait pour garder leur statut de médiateur, pour relancer le dialogue entre Washington et Téhéran. Mais au fil des ans, le poids diplomatique du trio a fondu comme neige au soleil. D'autant qu'aux yeux du régime iranien, il a échoué à défendre l'accord. L'absence de riposte européenne concrète face aux sanctions américaines a créé un déficit de confiance, reléguant la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni au rang d'acteurs de second plan. Et pourtant, ils n'abandonnent pas. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.
La négociation reste encore aujourd'hui la seule manière d'aboutir à un retour en arrière durable du programme nucléaire et balistique iranien. Et c'est pourquoi nous appelons au retour des négociations. Dans les échanges que nous avons pu avoir avec les autorités iraniennes, leur message a été relativement clair. Il y a une volonté de reprendre les discussions, y compris avec les États-Unis. Nous nous tenons prêts à apporter notre compétence, notre expérience sur ce sujet et notre constance pour mener les discussions avec les parties prenantes.
Au moment où Washington s'apprête à intervenir militairement en Iran, les marges de manœuvres européennes semblent infimes. Mais il faut tout tenter, dit Paris, car un Iran doté de l'arme nucléaire est pour l'Europe un danger existentiel.
Isabelle Labéry, la défense civile palestinienne annonce un nouveau bilan de 72 personnes tuées par des tirs israéliens. Elle venait chercher de l'aide humanitaire. Un élève de seconde du lycée Curie-Corot de Saint-Lô est mort mardi à la suite d'un accident survenu sur son lieu de stage, selon nos confrères de France Bleu Cotentin. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte. Selon le parquet de Coutances, la victime a été percutée par une palette de marchandises lors d'une manœuvre avec un chariot élévateur à l'extérieur d'un magasin discount de décoration et d'ameublement de la ville. La France, il faut le savoir, est l'un des plus mauvais élèves de l'Union européenne en matière de mort au travail. L'an dernier, 759 personnes sont mortes dans un accident du travail. Des drames, on vient de le dire, qui peuvent aussi toucher des mineurs, comme l'explique Mathieu Lépine, enseignant et depuis 2019, lanceur d'alerte sur les morts au travail.
Alors c'est vrai qu'avec trois mineurs qui sont décédés en l'espace d'un mois sur un lieu de travail ou de stage, hein, des mineurs de 15 à 17 ans, il est très très important de rappeler que ces stagiaires, ces apprentis sont inexpérimentés, ils sont peu formés en cours de formation et donc de ce fait, ils sont particulièrement vulnérables face à des situations à risque. Et on le voit, hein, des accidents qui se sont multipliés et qui doivent absolument nous questionner à tous les niveaux sur la façon dont ces jeunes sont encadrés. Que ce soit des apprentis ou des stagiaires, c'est pas exactement le même type de formation. Mais par contre, c'est dans les deux cas une main-d'œuvre très inexpérimentée qui a vraiment besoin d'être accompagné, qui a besoin qu'on lui explique les bonnes règles, les bons gestes, les bonnes habitudes à avoir. On peut pas laisser ces jeunes sur ces lieux de travail livrés à eux-mêmes. Et donc, ça pose énormément de questions sur la façon dont ils sont accompagnés.
Des propos recueillis par Wafia Kenich. Plusieurs organisations, dont le syndicat de la magistrature et le JISTI, introduisent un recours devant le Conseil d'État et demande la suppression des contrôles administratifs suite au déploiement de 4000 forces de l'ordre chargées d'interpeller des personnes considérées comme en situation irrégulière. C'est avec régularité que Marine Le Pen et Jordan Bardella affichent, mettent en scène leur unité, ce depuis la condamnation de la patronne des députés RN. Ce fut encore le cas cet après-midi au Salon du Bourget, lors de leur visite du Salon international de l'aéronautique et de l'espace. Bonsoir Laurence Méride.
Bonsoir.
Vous êtes au Bourget pour France Culture. Laurence, déambulation au cours de laquelle Marine Le Pen en a tout de même profité pour réaffirmer son autorité.
Eh oui, Marine Le Pen ne rate pas le coche. Non, la chef de file du Rassemblement National qui a choisi une veste d'un rouge flamboyant qui fait qu'on ne voit qu'elle au milieu des avions de chasse ne perd pas l'occasion de remettre Jordan Bardella à sa place. Lors de la visite, elle tient à voir le Rafale du stand d'assaut, celui même duquel François Bayrou a eu du mal à sortir lors de sa visite hier. Elle dit en riant qu'elle veut voir si son Premier ministre se débrouille mieux que l'actuel. Alors Jordan Bardella tombe la veste, s'installe quelques instants, puis ressort sans difficulté sous les yeux de son mentor. Quand un journaliste demande « C'est vous qui montez dans l'avion, Monsieur Bardella ? Pas Marine Le Pen ?» C'est elle qui répond.
Un avion de Premier ministre.
Un avion de Premier ministre. Une seconde de silence et Jordan Bardella entérine sa place de numéro 2.
C'est un avion de Premier ministre.
C'est un avion de Premier ministre, il le répète, mais ce déplacement commun, plutôt rare, ne trompe personne. Depuis la condamnation de Marine Le Pen à 5 ans d'inéligibilité pour détournement de fonds publics, la cohabitation a l'air difficile. Ça va mal entre les deux leaders du parti d'extrême droite. Il y a 3 semaines, Marine Le Pen tacle Jordan Bardella sur sa méconnaissance de l'outre-mer quand hier, ce dernier dit souhaiter une présidentielle anticipée si François Bayrou est renversé, à laquelle, de fait, Marine Le Pen ne pourrait pas se présenter. Et les choses ne s'arrangent pas pour l'ancienne candidate à la présidentielle. Sa stratège et amie, la députée Caroline Parmentier, est accusée d'antisémitisme. Malgré les demandes des journalistes, elle refuse à ce stade de s'exprimer sur le sujet. Dans l'avion, qui est en réalité sur un siège éjectable ? Marine Le Pen, bien plus que Jordan Bardella.
Merci à vous, Laurence Méride, ainsi qu'à Frédéric Kérou, pour les moyens techniques. Au procès de l'attentat contre la prison de Condé-sur-Sarthe, la Cour d'assises spéciale de Paris s'est penchée aujourd'hui sur la personnalité de Michael Chiollo, le principal accusé du procès, poursuivi pour avoir attaqué 2 gardiens au couteau lors d'une visite de sa compagne à l'unité de vie familiale de la prison. C'était en mars 2019. Un accusé qui revendique pleinement son acte et en dédouane complètement ses 3 co-détenus présents dans le box. L'examen de sa personnalité a donné lieu à des déclarations édifiantes. L'accusé continue à assumer son appartenance au groupe État islamique. Compte rendu d'audience, signé Florence Turme.
Il y a 15 ans, on m'aurait annoncé que j'allais combattre sur les chemins d'Allah, je ne vous aurais pas cru. Debout dans son box pendant plus de 4 heures, Michael Chiollo décline la route parcourue. Depuis cette enfance douloureuse, seul sujet dont il refuse de parler, je suis dans l'incapacité de le faire, puis sa fascination pour le nazisme à la tête d'un groupuscule d'extrême droite pendant 2 ans, ce qui va lui valoir sa première condamnation avant les assises pour avoir séquestré et tué un homme de 89 ans, pas un jour, lâche-t-il, sans que je regrette ce que j'ai fait. Des regrets pour un crime de droit commun, mais une allégeance assumée au groupe État islamique. En prison depuis ses 20 ans, l'accusé raconte sa conversion par étapes, la rencontre avec un détenu radicalisé, les livres qu'il dévore en détention. J'étais musulman par le nom, mécréant par les actes. L'islam a réussi à faire de moi une personne meilleure, assène-t-il, de plus en plus volubile pour dresser une véritable apologie du groupe État islamique, la quintessence de l'islam sur terre. La présidente intervient, les assassinats, les exactions, ce n'est pas la justice. Riposte immédiate, c'est la justice, il se base sur des textes, le Coran. Cautionne au passage les attentats du Bataclan et de Nice, ces endroits d'idolâtres où un musulman n'a rien à faire. Ça aurait été plus facile de rester inactif que de combattre, insiste Michael Chiollo. Mais j'ai prêté un serment d'allégeance, c'était une obligation pour moi de le respecter. Serment toujours valable, questionne la présidente. Bien sûr, si c'était à refaire, je le referais, ajoute l'accusé, comme enfermé à perpétuité dans son idéologie mortifère. Je me suis tellement engagé que je ne peux plus revenir en arrière.
Florence Sturm, un nouveau traitement préventif contre le virus du sida pourrait révolutionner. C'est le verbe privilégié par la biotech américaine qui l'a mis au point. Révolutionner la lutte contre l'épidémie. Pour n'en dire qu'un mot, pris par des personnes qui ne sont pas infectées mais considérées à risque, il consiste en 2 injections par an contre 1 comprimé par jour en l'état. Avec, et c'est encore et toujours la même question, Tara Schlegel, celle de l'accessibilité du traitement.
Vous l'avez dit, Mathieu, une injection, c'est un vrai progrès si on veut toucher des personnes qui ont du mal à observer les traitements. On sait aujourd'hui, explique l'association Aide, que la PrEP en France, par exemple, est prise par des hommes habitant dans des grands centres-villes, CSP+, donc ayant des revenus aisés. Or, les ONG veulent atteindre d'autres cibles aussi. Solène Bazin est responsable du plaidoyer.
Ces publics-là, on parle des jeunes hommes gays qui sont plutôt précaires, des personnes qui ont connu un parcours de migration, qui sont éloignées du système de santé, et notamment les personnes hétérosexuelles et particulièrement les femmes. Parce qu'aujourd'hui, voilà, l'épidémie de VIH en France, elle concerne effectivement à 40% des hommes gays, mais à 40% aussi des personnes migrantes, notamment hétérosexuelles.
Et puis forcément, il y a la question du prix, car ces nouveaux traitements entrent en concurrence avec des comprimés de PrEP déjà disponibles depuis 10 ans gratuitement et qui sont devenus très peu chers. Donc pour le lenacapavir, cette PrEP injectable qui vient d'être autorisée aux États-Unis, qui va durer 6 mois, ou pour le cabotegravir, un traitement injectable efficace 2 mois, les négociations sont très dures en France, explique le professeur Molina, chef du service d'infectiologie des hôpitaux Saint-Louis et la Riboisière.
Les comprimés sont des produits qui sont disponibles sous forme de générique, donc leur coût est relativement faible, même très faible. Et donc, à chaque fois que vous mettez sur le marché une nouvelle molécule, eh bien, le coût est plus élevé. Donc, il y a une discussion avec les autorités de santé pour savoir à quel prix ces innovations vont être remboursées, puisque en France, on a la chance que les produits considérés comme essentiels sont disponibles pour tout le monde. Ce ne sont pas les plus fortunés qui peuvent se l'acheter et pas les autres. Donc il y a des discussions actuellement en cours pour le cabotegravir puisqu'il a obtenu une autorisation européenne et donc on attend qu'il soit disponible en France.
Et pour le nouveau traitement, l'ENA, les discussions risquent de durer, Gilead le propose à $28,000 pour un an de traitement.
Merci à vous Tara Schlegel. Venons-en au dossier de cette édition. Le clubbing gagnerait-il en légitimité culturelle en France? Légitimité culturelle égale reconnaissance d'importance pour les établissements de nuit. Il en sera sûrement question cette semaine pendant la France Music Week, nouveauté lancée par la rue de Valois en amont de la fête de la musique. Bonsoir Éric Chavaux.
Bonsoir Mathieu, bonsoir à toutes et à tous.
Eh bien Éric, plusieurs événements participent de ce mouvement.
Et d'abord un tout nouveau label baptisé Club Culture, lieu d'expression artistique et de fête, obtenu auprès de la rue de Valois, explique Aurélien Antonini. Il préside le syndicat Culture Nuit et a cofondé le groupe Bonjour Bonsoir qui exploite 4 lieux à Paris.
C'est une excellente nouvelle pour le secteur, c'est-à-dire qu'on puisse enfin dire à nos équipes de direction artistique, de production et autres qu'elles font bien partie de la grande famille de la culture. C'est aussi hyper important pour notre secteur qu'enfin on en parle de manière un peu différente que uniquement comme une source de nuisance.
16 lieux de nuit viennent ainsi d'être labellisés pour 3 ans, Éric.
À Paris, Lille, Nantes, Lyon ou Brest, avec des panneaux qui seront installés pendant l'été, des sites dits hybrides, reconnus pour leur promotion des musiques actuelles, grâce à la volonté de Rachida Dati, précise Aurélien Antonini.
Certains anciens de la nuit, ils me parlent de ce combat depuis plusieurs dizaines d'années, mais ça a vraiment pris une autre tournure pendant le Covid, avec les mots de Roselyne Bachelot qui ont profondément surpris notre secteur. On s'est rendu compte que les lieux de diffusion n'avaient pas du tout été reconsidérés, et donc on s'est réunis, on a fait justement un collectif qui nous a permis de commencer à nous signaler auprès des autorités et de signaler ce qu'on considérait comme une injustice qui est aujourd'hui réparée.
Les clubs et leur culture, portés aussi en ce moment par une exposition inédite par son ampleur et son hôte, le Grand Palais Immersif. Un retour sur plus d'un demi-siècle de musique, de fêtes et de revendications, du Loft à New York, au Pacha d'Ibiza, en passant par le Berghain de Berlin ou l'Hacienda de Manchester. Sans hésitation sur le choix de ce sujet, affirme la présidente du Grand Palais Immersif, Delphine de Cannecaude.
Notre comité éditorial, il est fait avec les équipes Grand Palais RMN. Donc tout ce qui sort de chez nous et a été discuté, validé, choisi, initié avec le Grand Palais. Et ils ont vu toutes les étapes de l'exposition et ils trouvaient que c'était chouette. Je crois en tout cas, quand on prend ce que ça a produit en termes de création, il y a un langage, des styles, des gens, des danses, et qu'en fait, quand on connecte tous ces éléments, ce qu'on essaie de faire, on voit une culture qui est forte, qui nous rassemble, et un lieu d'intensité, de liberté, d'émotion, et c'est notre culture.
Et d'autres événements, Eric, facteurs de légitimation, s'ajoutent à cette dynamique?
Oui, évoqué et interrogé par Arnaud Hidelon, longtemps grand fêtard et auteur d'un essai sur les politiques du dance floor.
Il y a Joie Collective au Palais de Tokyo, il y a Fun Palace au Grand Palais avec le Centre Pompidou, il y a l'Expo Disco à la Philharmonie, la saison Fiesta 3000 à Lille. La fête est un peu à l'agenda des institutions culturelles aujourd'hui. On pourrait presque poser la question de est-ce que c'est le début d'un mouvement de patrimonialisation ou d'institutionnalisation de la fête et qu'est-ce que ça raconte? Et puis derrière, il y a une petite question sous-jacente, c'est est-ce que l'énergie festive, elle reste dès lors qu'on l'amène au Palais de Tokyo, dès lors qu'on l'amène au Grand Palais, ou est-ce que c'est pas une mise en scène ou une mise en décor de cette fête mais qui perdrait son énergie première.
Quoi qu'il en soit, celui qui a également cofondé le tiers-lieu, le Sample, à Bagnolet, souligne que la fête et ses lieux ont un rôle très sérieux dans le contexte politique et historique actuel pour éviter d'être prostré ou fataliste et profiter d'un endroit de joie collective, d'identité commune et de rassemblement malgré nos différences.
Merci à vous, Éric Chavot, pour ce dossier dédié au clubbing. Quelques mots de la météo demain vendredi, 16 départements de la façade ouest à l'Isère, placés en vigilance orange canicule, sinon du bleu, avec des températures maximales comprises entre 22 et 38 degrés. Ce journal a été réalisé par Jean-François Braun à la technique, Timothée Hubert.